Des prières, des chants, toute la nuit. Les hommages aux 22 victimes de l'attaque du centre commercial d'El Paso se sont succédés. Les États-Unis ont qualifié l'attaque d'acte de terrorisme intérieur. Donald Trump se rendra sur place demain.
D'une seule voix, notre pays doit condamner le racisme, le fanatisme et la suprématie blanche. Ces idéologies sinistres doivent être vaincues. La haine n'a pas sa place en Amérique.
Dans un manifeste, le tueur a dit prendre les armes pour lutter contre ce qu'il appelle une invasion hispanique aux États-Unis. Une attaque motivée par la haine raciale qui en rappelle d'autres. Juin 2015, un homme tue 9 personnes dans une église fréquentée par des Afro-Américains à Charleston. Octobre 2018, en plein Shabbat, un assaillant fait 11 victimes à Pittsburgh. Ce phénomène existe au-delà des frontières américaines. Il y a 5 mois, la Nouvelle-Zélande connaît la pire tuerie de son histoire moderne. Un homme tue 51 musulmans dans la mosquée de Christchurch. L'Europe non plus n'a pas été épargnée. En 2011, en plein camp d'été des jeunes travaillistes sur l'île d'Utøya, le Norvégien Anders Breivik tue 77 personnes. Récemment, plusieurs personnes se sont revendiquées de son action et souhaité passer à l'acte en France, en s'en prenant à Emmanuel Macron ou encore à des mosquées.
On va voir apparaître des milices qui ne disent pas leur nom, qui se préparent dans l'hypothèse d'une guerre civile qui éclaterait dans le pays, en considérant que chaque musulman serait un djihadiste potentiel.
Le terrorisme d'extrême droite est-il en expansion ? Les discours politiques pointant du doigt les étrangers et les migrants l'encouragent-ils ? Comment lutter aujourd'hui contre ce phénomène ?
Comment définir ce terrorisme d'extrême droite ? Sur quelle idéologie repose-t-il, Jean-Yves Camus ? Quand on parle de terrorisme d'extrême droite, de quoi parle-t-on ?
Aujourd'hui, on parle davantage que de suprémacistes blancs, de gens dont l'idéologie repose sur le postulat qu'en 2030 ou en 2050, les blancs d'origine européenne, d'héritage européen, seront une minorité dans un pays de minorité. Ce sont donc des gens qui, notamment au Texas, se disent « on est déjà pratiquement minoritaire et on va devenir, dans pas très longtemps, submergé par le flot d'immigrants qui arrivent, par ceux qui sont déjà là, et culturellement… »
Qui arrivent du Mexique, essentiellement.
Qui arrivent du Mexique et du reste de l'Amérique centrale. Et culturellement, nous ne serons plus qu'un îlot parmi d'autres. Par conséquent, la solution consiste à revenir à ce qu'était l'Amérique originelle, c'est-à-dire un pays qui, dans l'esprit des pères fondateurs, très certainement, était destiné à des gens de souche européenne, de religion chrétienne essentiellement protestante et naturellement blanc. Je rappelle quand même qu'il a fallu attendre le vote du 14e amendement en 1868 pour que les esclaves affranchis deviennent citoyens américains. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins les Afro-Américains qui sont la cible que les Latinos, parce qu'ils forment le cœur des flux d'immigration et parce que leur démographie est beaucoup plus conséquente que celle d'ailleurs des Afro-Américains. Donc c'est là que le danger pour ces gens réside aujourd'hui.
Et ce terrorisme d'extrême droite, Guillaume, il fait un certain nombre de victimes.
Oui, 175, c'est notre chiffre du jour, et c'est le nombre de morts victimes du terrorisme d'extrême droite dans le monde depuis 8 ans. Une grande partie de ces tueries a eu lieu aux États-Unis. Charlotte Recoquillon, est-ce que c'est parce qu'il y a une forme de terreau culturel, ou est-ce que c'est aussi pour des raisons pratiques? On pense à la vente libre des armes qui permet un passage à l'acte plus facile.
Alors 175, ça va être le nombre recensé, mais sans doute que le nombre, il est beaucoup plus important que ça, puisqu'on en a encore à définir et qualifier. Là, c'est un petit peu nouveau qu'on qualifie cet acte, cette tuerie de terrorisme domestique. Ça fait très longtemps que ces genres de tueries et de crimes violents existent et que les organisations non gouvernementales, les associations, les militants alertent sur ces sujets-là sans être vraiment entendus. Le FBI a tenté en 2006 de parler de la question des connexions entre la police américaine et les groupes d'extrême droite et comment la police elle-même est infiltrée par des gens qui ont des connexions très fortes à des groupes d'extrême droite. Ce rapport a été enterré et depuis la cellule qui s'en est occupée a été démantelée. Donc tout ça est relativement nouveau. À cela s'ajoute effectivement la disponibilité des armes et des conditions logistiques qui permettent de mettre en œuvre et de passer à l'acte dans une société qui est violente. Et je voulais juste poursuivre Allez-y. Dans le sens de M. Camus pour ajouter qu'effectivement, le suprémacisme blanc est à la fondation même des États-Unis et a été un système qui a été conçu comme tel. La détention de la citoyenneté, du pouvoir politique, du pouvoir et de la violence légitime a été détenue par les blancs, par les hommes blancs, et confisquée aux hommes noirs qui étaient esclaves, notamment, et aux femmes, etc. Mais comme Ta-Nehisi Coates l'écrivait dans The Atlantic en 2016, le suprémacisme blanc n'est pas du tout un phénomène du passé, et encore moins un phénomène nouveau, mais il est vraiment à la base de la construction et des forces à l'œuvre dans la société.
Guillaume Fard, est-ce que ça veut dire qu'après le 11 septembre, on a minimisé cette menace de terrorisme domestique, de terrorisme blanc, comme on dit aujourd'hui ?
C'est pas tellement qu'on l'aurait minimisé, mais plutôt que les priorités, notamment des services de renseignement, et notamment des services de renseignement européens, vont changer. Parce que la menace va surtout être une menace d'organisation terroriste islamiste mondiale, avec un projet qui est le projet de déstabilisation des démocraties occidentales et notamment des démocraties d'Europe de l'Ouest. Donc les services de renseignement vont progressivement réorienter leur travail de suivi sur ces organisations terroristes-là. Mais dans le même temps, dans les années 2000, le terrorisme d'ultra-droite reste présent. Il y a des crimes très graves de masse qui sont commis, qui vont viser la communauté juive principalement, mais pas exclusivement. Aussi, il y a un substrat, un terreau très profondément anticommuniste qui est ancré dans l'extrême droite européenne, et donc il y aura aussi les organisations extrême gauche qui vont être ciblées. Et puis enfin, il y a des crimes qui sont commis par l'extrême droite en Europe, notamment en Allemagne et en Belgique, qui visent des personnes d'origine étrangère ou carrément étrangère. Et ça, il y a notamment un attentat qui est perpétré en Belgique qui a visé une personne malienne. Enfin, on trouve des attentats dans les années 2000 en Europe.
Alors, l'accusation de Trump, elle peut surprendre dans la mesure où, on l'a vu tout à l'heure, le président a condamné ce qui s'est passé.
Je crois qu'on prend les choses à l'envers, en fait. Il ne faut pas imputer à Donald Trump la responsabilité de ce qui se passe. Il faut revenir 20 ans en arrière. Il y a 20 ans, un intellectuel conservateur que personne ici ne connaît, qui s'appelait Samuel Francis, écrit un bouquin qu'il faut absolument lire, dans lequel il décrit, prédit, souhaite l'émergence d'une classe moyenne américaine radicalisée. Une classe de gens qui se sentent dépossédés du pouvoir économique et politique, et dépossédés de leur culture. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Et ça précède l'élection de Donald Trump. Ça la rend possible. Ça explique l'évolution du Parti républicain, d'une partie du Parti républicain. Ça explique l'émergence du Tea Party. Donald Trump, bien évidemment, certaines de ses déclarations sont éminemment polémiques et il aurait été préférable qu'il ne les fasse pas, mais il ne vient que tirer profit d'un mouvement qu'il a vu venir et qu'il est peut-être d'ailleurs le seul à avoir vu venir. C'est à cause de ce changement idéologique qu'il est élu, ou grâce en partie à ce changement idéologique. C'est pas lui qui met le feu aux poudres comme ça subitement.
C'est la question, Charles-Antoine Coquillon. Est-ce que Trump est la cause ou le reflet de cette idéologie ?
Moi, je pense qu'il est les deux, c'est-à-dire que il est indéniable qu'il n'a pas lui-même engendré tous ces problèmes. Hein. Comme je le disais, le suprémacisme blanc, il a été mis en place par les pères fondateurs à la fondation des États-Unis. Ceci dit, il y a une corrélation assez claire entre les discours politiques, les actions politiques, les mots et le degré de permission et que les Américains se sentent...
Décomplexés, vous direz quoi.
Oui, voilà, ils sont décomplexés, ils se sentent autorisés à du coup être violents. Et d'ailleurs, les recherches, les sociologues ont montré que ceux qui commettent ce genre de crimes sont inspirés par d'autres qui commettent ce genre de crimes. Et dans les différents manifestes, et d'ailleurs à l'international aussi, qu'ils ont publiés avant de commettre leur tuerie, ils ont souvent évoqué des propos tenus par des politiques, que ce soit Trump, que ce soit y compris des intellectuels d'extrême droite, etc. Donc il y a une corrélation claire, et Trump, dans ce sens, est à la fois aussi le résultat de cette peur et de cette frustration, et le retour de bâton après Obama Obama et une époque où les Américains ont cru que les minorités avaient des revendications trop importantes et qu'ils faisaient trop d'avancées et donc se sont sentis menacés.
Alors c'est vrai que...
Enfin, hein, Guillaume Fard, est-ce qu'on n'a pas eu tendance, nous aussi, en Europe, ces dernières années, à sous-estimer cette menace?
Surtout que cette menace, elle a évolué, elle a un peu muté. C'est-à-dire qu'on disait à l'instant, le terrorisme d'extrême droite en Europe dans les années 2000, il est allemand, français, un peu belge, il s'attaque à la communauté juive, principalement, pas exclusivement, mais principalement, avec les attentats qui sont perpétrés, notamment dans les années 2010, et qui touchent des pays qui sont des pays plutôt d'Europe du Nord, France, Allemagne, Grande-Bretagne, quelques États scandinaves, ça va aussi amener le terrorisme d'extrême droite vers des cibles qui sont la communauté musulmane, et puis arrive le phénomène aussi des migrants, et ces questions très politiques liées à l'accueil des réfugiés, à l'accueil des migrants, et ça aussi, ça va attiser les mouvements connus pour être radicaux d'extrême droite, parce que ça les rend très réceptifs à la théorie du grand remplacement. Et on voit que dans les motifs qu'ils invoquent, il y a aussi cette idée qu'il faudrait se défendre contre des invasions, et ça va jusqu'à l'émergence d'un courant qui est survivaliste, qui lui dit il faut que nous nous armions, il nous faut des armes, parce que les États sont défaillants pour nous protéger de l'islam et également des migrants. Et parce que nous serons armés, nous irons combattre.
Jean-Yves Camus, ce sont les mêmes ressorts, selon vous, qu'il y a aux États-Unis, à El Paso, en Nouvelle-Zélande avec l'attaque de Christchurch et en Europe?
Si on veut véritablement y aller à grands traits, oui, c'est le même ressort. C'est toujours effectivement la détestation de l'étranger en fonction de ce qu'il est. Et puis c'est aussi ce sentiment qui est très très prégnant partout que la civilisation occidentale, ce que ces gens décrivent comme la civilisation occidentale, est arrivée à un point de non-retour. C'est-à-dire que si des individus ne se substituent pas, et ça c'est fondamental, aux forces de l'ordre et aux pouvoirs publics pour... exercer le maintien de l'ordre et arrêter ce mouvement, alors ça va être effectivement non seulement le grand remplacement, mais la fin de la civilisation. Ceci étant, une fois qu'on a dépassé ces considérations générales, il y a énormément de spécificités, notamment dans le cas américain, on l'a dit, la facilité d'accès aux armes, une forme effectivement d'antériorité aussi très forte hein, dans la manière de s'attaquer de manière extrêmement violente aux immigrants et aux représentants du pouvoir. Parce que aujourd'hui aux États-Unis, ce sont effectivement les Latinos qui forment la grande majorité des victimes, voire la totalité des victimes, d'après ce que je crois, de l'attentat d'El Paso. Mais dans les années 80, à partir du milieu des années 80 jusqu'aux années 90, ce sont les forces de l'ordre, en raison d'une théorie qui voulait à l'époque que l'État américain soit en quelque sorte entre les mains d'un ennemi. Cet ennemi, c'était les Juifs. Cet État a été appelé par ses adversaires le gouvernement d'occupation sioniste et le principal des forces militantes se consacrait à attaquer des agents fédéraux ou à, par exemple, falsifier des dollars pour pouvoir financer leurs actions. Et alors là, immédiatement, aussi bien sous administration républicaine que sous administration démocrate, le coup près est tombé parce qu'il faut quand même rappeler quelque chose. Aux États-Unis, on peut se procurer des armes et on peut les utiliser. Mais par contre, à partir du moment où on commet un crime, notamment contre un crime fédéral, là, la sentence est claire. C'est souvent la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine ou la peine de mort. Et parmi les 5 personnes que l'attorney général américain a désigné comme pouvant être prochainement exécuté, puisque le moratoire sur les exécutions fédérales a été levé. Donc il y a 5 condamnés à mort qui vont être exécutés. Il y a un suprémaciste blanc.
Alors Jean-Yves Camus.
Guillaume Fard, il y a quelques mois, il y a eu un projet d'attentat contre Emmanuel Macron qui a été démantelé. Est-ce que vous diriez que le niveau de la menace de ce terrorisme d'extrême droite est très élevé en France aujourd'hui?
Il est en tout cas pris très au sérieux. Alors si on regarde les personnes qui sont condamnées pour des faits de terrorisme et qui sont actuellement dans les prisons françaises, c'est plusieurs centaines pour du terrorisme islamiste et quelques dizaines pour du terrorisme d'extrême droite. Donc ça donne quand même quelques ratios. Néanmoins, il y a une commission d'enquête parlementaire hein, sur les groupuscules d'extrême droite qui a rendu ses conclusions en juin 2019 après toute une série d'auditions et qui donne une réalité assez précise de cette menace. Où on a à la fois les ultranationalistes qui, eux, descendent du GUD,